Voilà, bonsoir. Je rappelle rapidement les derniers cours. Nous avons commencé par ce qui est le fondement de la famille, à savoir le couple. Ensuite, nous avons étudié la paternité avec l'itinéraire pour le moins surprenant de Abraham et de Sarah. Nous avons, dans un troisième temps, scruter un autre type de relation qui est beaucoup plus importante qu'on ne le pense à première vue pour l'élaboration de notre identité profonde, c'est celui de la fraternité. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la question plutôt d'une filiation, de la filiation. J'ai intitulé de façon un petit peu pompeuse une filiation nomade et multiculturelle élaborée grâce à trois familles. Nous allons lire ensemble les trois premiers chapitres du livre de l'Exode qui nous raconte l'origine de Moïse. Je ne sais pas si vous avez comme moi dans la tête l'image d'un Moïse puissant, fort, sûr de lui, qu'on a représenté souvent dans les palais de justice, quelqu'un qui ne doute de rien. Or, comme l'a montré d'ailleurs la tradition artistique, Moïse a commencé sa vie par une grande interrogation sur sa propre identité. Il ne savait pas très bien qui il était. C'était un homme extrêmement fragile. Fragile et perdu. Dans une triple filiation, la filiation naturelle de son père et de sa mère de sang, le monde hébreu, la filiation qu'il reçoit grâce à la princesse égyptienne, et en troisième lieu aussi, on passe souvent sous silence, la filiation qu'il reçoit de sa famille, de sa nouvelle famille madianite, avec cette belle figure du beau-père Jéthro. Alors c'est un parcours qui est extrêmement vaste. En fait, pour vous situer ce chapitre dans mes recherches, j'ai fort été intéressé ces dernières années par la question du gender, le genre, dont vous avez sans doute entendu parler. Et j'ai été frappé d'une chose, c'est que le genre, vous irez regarder sur Internet pour ceux qui ne connaissent pas encore bien cela, je ne vais pas faire court sur le genre maintenant. Le genre est caractérisé par une chose, c'est quelque chose qui m'a frappé plus j'étudiais cette nouvelle anthropologie sur laquelle est basée l'ONU, sur laquelle est basée en grande partie les commissions européennes, etc. Enfin, c'est la nouvelle anthropologie. Elle est basée sur une grande pauvreté de l'identité. En effet, définir son identité par son comportement sexuel relève d'un appauvrissement de l'identité extraordinaire. Si je me présente et je dis « bonjour, je suis hétéro », ce n'est pas le sujet, vous voyez ce que je veux dire. « Bonjour, je suis bi-opéré ». « Bonjour, je suis... hein, » vous voyez ce que je veux dire, hein. Bonjour, je suis homo. Et donc, j'ai été frappé, je caricature un petit peu ici, hein. Le micro n'est peut-être pas d'accord, mais je caricature un petit peu ici. Mais vous voyez, définir son identité par un comportement sexuel relève d'un appauvrissement radical. Non, mon prénom, c'est Olivier, et dans le mot Olivier, il y a tellement plus que tous les comportements sexuels qu'on peut avoir. Tellement plus riche. Et donc, j'ai interprété la question du gender comme en fait le symptôme d'une société qui est très perdue au niveau de l'identité. Je me suis demandé, mais tiens, est-ce que dans la Bible, il n'y a pas... Est-ce que l'Écriture sainte n'est pas capable d'accueillir cette interrogation? Souvent, les catholiques sont perçus, représentés comme les sédentaires de l'identité, sûrs d'eux-mêmes. Moïse nous apprend, et le Christ à sa suite, tout le contraire. Nous sommes des nomades de l'identité. Et donc, c'est pour ça que j'ai interrogé comment est-ce que Moïse a élaboré son identité d'homme à l'intérieur d'une histoire extrêmement complexe et extrêmement bouleversée, ayant été adopté et puis remis en nourrice et puis etc. Enfin, c'est une... Comment est-ce qu'il a pu élaborer son identité, vous voyez ? Et voilà, c'était le défi. Et donc, en faisant cela, je me suis donc interrogé aux trois premiers livres de l'Exode. Alors, je vais passer assez rapidement sur le contexte social. Tout d'abord, Moïse ne vient pas de nulle part. Il ne vient pas à partir de lui-même, à partir du néant ou du vide. Non, il est porté par une histoire précise. Son existence s'inscrit dans celle des générations qui l'ont précédé. Le livre de l'Exode, Shemot, en hébreu, signifie le livre des noms. Exode vient du grec exodos, hein, le chemin, non, qui sort de la sortie, exodos. En hébreu, le mot Shemot veut dire un peu autre chose, signifie le livre des noms, on pourrait dire le livre des identités. Donc, il advient dans une généalogie précise qui présente une grande lisibilité pour le lecteur que nous sommes, puisque dès les premiers versets, il nous est présenté, sa famille, mais cette lisibilité généalogique ne l'est pas pour Moïse lui-même, comme beaucoup de nos, enfin, comme un peu nos contemporains. Il vit dans un contexte de discrimination, tout d'abord raciale. L'Égypte qui a fait preuve d'hospitalité à l'égard des fils d'Israël, eh bien, le pharaon actuel a un problème de mémoire. Il ne se souvient plus du bienfait de ces étrangers et il va les discriminer, comme on dirait aujourd'hui, sur la race. Et puis il va les discriminer aussi sur le travail, en instaurant une dialectique de maître à esclave, avec une économie qui est basée sur l'exploitation de l'étranger et non pas l'intégration. Il y a toute une lecture économique qu'on pourrait faire de ces premiers versets du livre de l'Exode. Si vous avez le temps, dans la semaine qui vient, n'hésitez pas à lire ces trois premiers chapitres de l'Exode. Ce n'est pas trop long, mais ça vaut vraiment la peine. Et vous pouvez vous relire ça, il y a sans doute des économistes parmi vous. Et tiens, quel type d'économie est sous-jacente ? Enfin, des mesures génocidaires sont prises contre ce peuple en discriminant sur le sexe. Tous les enfants mâles doivent être jetés dans le fleuve. Voilà le contexte dans lequel naît Moïse. Et c'est intéressant de voir qu'il y a, dans ces trois premiers chapitres, tout un mécanisme de prolifération et d'une logique des lois qui deviennent de plus en plus injustes. D'abord des lois raciales, ensuite des lois sur le travail, où on ne considère plus les Hébreux comme des humains, mais comme des esclaves, et puis ensuite, carrément, des mesures discriminatoires et génocidaires. L'une prépare l'autre. Ce faisant, sans le savoir, Pharaon creuse une immense tombe pour son peuple. Mais ça, il faudra beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Les mesures légales prises par Pharaon ne porteront leur fruit de mort, ne manifesteront tout leur fruit de mort que bien plus tard, dans la mer Rouge. D'accord ? Pour l'instant, il a l'impression que ces mesures sont porteuses de vie pour son peuple. Et il se construit des immenses entrepôts, dans lesquels, en fait, des grands coffres-forts, si vous voulez. Ce faisant, il singe un peu Joseph, qui lui aussi avait construit des grands greniers. Mais Joseph, lui, c'était pour partager, en même temps pour vendre, un bon commerçant, avec les peuplades des alentours. Ici, c'est une économie qui est centré sur la gloire de Pharaon, père du peuple. Alors c'est intéressant de voir que face à ces mesures génocidaires, il y a des accoucheuses qui sont des c'est le personnel médical, enfin deux femmes, hein, qui sont le personnel médical de l'époque, qui n'obtempèrent pas à ces différents ordres et qui résistent avec adresse, sans s'opposer frontalement à Pharaon, en disant « voilà, Pharaon, on n'arrive pas, quoi, parce que les femmes hébreues sont tellement vigoureuses que quand on arrive, l'enfant est déjà né. » Alors, devant une telle explosion démographique, Pharaon et l'inefficacité des accoucheuses, du personnel médical, Pharaon donna un ordre à tout son peuple pour dire « Tous les fils nouveau-nés, à la grande rivière, vous les jetterez dans le fleuve, et toutes les filles vous laisserez vivre. » Les lois concernent tout le monde. Voilà pour le contexte, rapidement développé, rapidement présenté. C'est dans ce contexte extrêmement tragique, je passe à mon point B, un enfant rescapé, alors que la vie semble barrée, voilà que en 2.1, une phrase tout à fait paradisiaque et délicieuse se fait entendre. Et un homme alla de la maison de Lévi et il prit la fille de Lévi. Sans transition, en tant que lecteur, nous sommes plongés dans la joie d'une nouvelle union et bientôt d'une nouvelle naissance. Bravant la désespérance et l'enfermement de la vie sur elle-même, vous voyez, c'est un thème récurrent, hein. Chez Abraham, il y avait un problème d'enfermement de la vie sur elle-même, la vie qui tournait sur elle-même. La vie qui n'arrivait plus à se transmettre aux générations futures qui suivent. Un homme de la maison de Lévi alla et épouse une femme de sa tribu. L'histoire poursuit son cours. À chaque naissance, nous sommes replongés dans le livre de la Genèse, dans l'éclat frais et joyeux des commencements. L'arbre des générations continue à pousser sur cette terre devenue concentrationnaire. Et la femme fut enceinte et elle enfanta un fils. 2, chapitre 2, verset 2. C'est impressionnant de voir que sans transition, le texte passe des mesures génocidaires de Pharaon, jeter tous les enfants de sexe mâle dans la grande rivière, dans le fleuve, et puis juste après, il y a une sorte de choc, si vous voulez, émotionnel, et un homme de la maison de Lévi alla pour prendre, comme si, voilà, la vie continue malgré tout. Un garçon voit donc le jour à l'intérieur d'une alliance courageuse entre un homme et une femme. Il n'est pas fabriqué à la manière d'un demi-dieu, comme bien des héros mythologiques. Ses parents descendent de la tribu de Lévi, dont le nom signifie « Cette fois mon mari s'attachera, se scellera à moi, car je lui ai donné trois fils. » Souvenez-vous de l'histoire de Léa. À l'aube de son existence, le futur Moïse est merveilleusement accueilli par cette fille de Lévi. Alors, il y a cette très très belle petite phrase, 1, 2, chapitre 1, verset 2. Elle le vit. Alors, vos Bibles en général le traduisent « il est beau », mais en fait, « il est bon »,« tov ». Elle le vit, il est bon. Ça ne vous dit rien, chapitre de la Genèse. C'est un recommencement ici. Hein. Dieu vit que cela était bon. C'était très bon. Le nourrisson reçoit l'hospitalité de ses yeux et de son cœur de mère. Il est contemplé par elle comme Dieu l'a fait pour Adam et Ève. C'est le même mot « tov », bon. Le nouveau-né est enveloppé par cette même qualité d'attention qui se réjouit, qui met à distance et communie. Il est profondément béni, c'est-à-dire reconnu dans sa bonté fondamentale. C'est ça la bénédiction. Être reconnu dans sa bonté fondamentale. Non pas d'abord pour sa beauté ou pour sa force, il y a d'autres adjectifs en hébreu pour cela, comme quelqu'un de bon. Alors, comment voulez-vous que ce soit, ce nouveau-né soit un agresseur, un danger pour la sécurité nationale de Pharaon, qu'il faille exécuter et tuer? Nous recevons tous, en tant que lecteurs, un joli faire-part de naissance. Un homme prit une femme, celle-ci conçut et enfanta. C'est la façon habituelle de dire monsieur et madame Van Pieperzee le sont heureux d'annoncer la naissance de leur fils, je ne sais pas moi, Jeff, d'accord, n'importe quoi. Hein. Mais je viens justement de me trahir et de trahir le problème fondamental de ce faire part de naissance. Le nom de l'enfant n'est pas donné. Ça, c'est tout à fait étonnant dans la Bible. Le chaînon littéraire d'une annonce classique manque. Comme si vous envoyez à tous vos amis, nous sommes heureux et, de vous annoncer la naissance de... Et puis vous ne mettez pas de nom. On est surpris, d'accord ? Il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Il devra attendre son sevrage avant d'être appelé officiellement Moïse. Et il sera appelé Moïse, non pas par ses parents de sang, mais par sa mère adoptive. En Exode 2.10. Donc on sent que à l'intérieur de cette joyeuse naissance, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, tout de suite. De son côté, le père semble étrangement absent. Deuxième indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il disparaît juste après le mariage et la conception, sans doute. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Un petit peu comme dans le livre de la Genèse, chapitre 1, 2, c'est magnifique, etc. 3, pouf. Et puis dès qu'il y a Caïn et Abel, on n'entend plus parler d'Adam. Hein ? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et c'est Dieu qui doit prendre, prendre soin, comme père, de Caïn et Abel, dans ce mythe fondateur révélé. Ici, le père semble absent. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec sa femme en disant non, un garçon, on ne peut même pas le garder, parce qu'on va mettre toute la famille en danger, la police politique risque de descendre à tout moment chez nous ? Ou bien est-ce qu'il est écrasé par son travail ? Il travaille à ramasser des briques et de la paille. Troisième petit élément qui nous font sentir que les choses ne sont pas simples. Elle le vit, dit le texte, il est bien, et le dissimula durant 3 lunes. Je prends une traduction assez littérale. Il y a beaucoup de mères de famille parmi vous. Alors c'est sûr que quand un enfant vient de naître, on a envie d'un tout petit peu le garder pour soi. Un tout petit peu, on n'a pas envie que tout le monde arrive tout de suite dans la chambre. Hein, il y a un moment d'intimité normal, etc. Et après, on est heureux, on ne se cache pas, enfin, on est heureux de dire aux voisins, aux voisines, etc. Il y a une joie, etc. Bon. Là, pendant 3 mois, elle est obligée de le cacher. Et le mot qui est utilisé, ce n'est pas moi, mais c'est lune. Tiens, comme s'il ne pouvait vivre que la nuit. Alors que cette naissance devait apporter la joie, et elle l'a apporté la joie, elle apporte sans doute aussi beaucoup d'angoisse. Donc il faut le cacher. Certains disent que c'est l'origine du bégaiement de Moïse. Mais bon, n'importe. Vous savez que Moïse, le grand médiateur, il bégayait, il parlait comme ça, d'accord ? Et donc il avait besoin d'Aaron pour traduire ses paroles, parce que sinon on n'y arrivait pas. Bon. Hein? Mais, on peut s'imaginer, disent certains commentaires juifs, que dès qu'il pleurait, il y avait une angoisse et on étouffait ses cris. Alors, lors d'une conférence, il y a une maman qui dit, mais peut-être qu'elle l'avait habillé en fille, comme ça c'était plus sûr. C'est possible aussi. Hein? Encore que quand on est un nourrisson, bon, il n'y a pas de mode à l'époque garçon-fille, d'accord ? Bon. Enfin, toujours est-il que, voilà, hein, ça ne va pas. Et puis, au terme de ces 3 mois lunaires, Sa mère, je cite, ne pouvait plus le dissimuler. Elle prit pour lui une harche de roseau et elle le barbouilla de boue rouge et de pois. Elle mit dedans l'enfant et elle mit dans les joncs sur la lèvre de la grande rivière. C'est une façon de traduire rive, lèvre. Une première lecture nous fait pousser des cris d'horreur. Comment est-ce qu'elle peut faire cela? C'est impossible, etc. En même temps, quand on lit à l'intérieur du texte, on voit que c'est avant tout un geste de salut qui est opéré. Des petits signes sont là dans le texte, tels que, par exemple, ce sont les mêmes mots qui sont utilisés pour fabriquer l'arche de Noé, qui va être moyen de salut pour son peuple. Il y a là aussi, quand on baptise un enfant, symboliquement, c'est la même chose qui est faite aussi. Hein, c'est une sorte de on dépose son enfant, en le tenant bien, dans les eaux du baptême. Hein. Enfin, voilà, je ne vais pas développer cela, mais donc, seule la sœur de Moïse suit les événements. Je me suis mis un peu dans la peau de cette sœur aînée. Quelle terrifiante responsabilité, hein, vous imaginez, hein, mais ça. Voilà donc notre cher Moïse qui est ballotté sur les eaux, dans sa petite arche. L'Exode recommence, où commençait la Genèse, sur les eaux primordiales. Or, donc je suis toujours dans mon point 2, et je passe à une étape supérieure, enfin suivante, je cite 2.5, « La fille de Pharaon descendit se laver sur la grande rivière, ses jeunes filles allant le long de la grande rivière. » Ça, c'est aussi un petit devoir que je vous suggère, c'est de regarder le prince d'Égypte. C'est un dessin animé qui est paru il y a quelques années, qui est absolument extraordinaire. On voit ce bébé qui est ballotté sur ce fleuve avec les crocodiles, avec l'angoisse, etc. Et puis tout d'un coup, cet abominable fleuve qui est d'ailleurs un fleuve qui est le tombeau des milliers de petits bébés égyptiens, de petits bébés hébreux, hein, qui ont été jetés là. Hein. Donc ils surfent sur une immense tombe. Et tout d'un coup, ça se transforme en salle de bain agréable, parfumée, etc., où la fille de Pharaon descend pour se laver avec sa suite. Il y a un contraste entre violence et douceur, si vous voulez. Et le lecteur que nous sommes est saisi par cela. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on lit vraiment ces premiers chapitres du livre de l'Exode. Le monstre aquatique se transforme donc en bain et ses abords en jardin de promenade. Les servantes se promènent. Le pharaon terrifiant, la figure du pharaon terrifiant, cède la place à celle de sa fille qui va se baigner. Ablution régulière, non selon la tradition juive, ablution liturgique, pour se laver des forfaits de son père meurtrier, pour se nettoyer de la lèpre autocratique. C'est une citation. C'est une interprétation. Hein. Qu'est-ce que ça signifie, ce bain? Le couvercle retiré, le bébé pleure sans retenue. Je dois avouer qu'un jour, j'ai assisté à un baptême araméen où l'enfant était pris par les deux pieds, les deux mains par le prêtre qui avait une force impressionnante d'une main et il hurlait et puis après, pouf, il le plonge dans l'eau et alors le bébé ne hurle plus. Et puis ça dure et on voit l'angoisse de la mère et puis le prêtre qui commence à continuer à chanter. C'était l'araméen, je ne sais pas. Hein. Il y avait une famille Akai. Moi, j'étais un peu
Je regardais la montre, hein, et puis d'un coup, waouh, l'enfant sort et waouh. Ouf, hein, oui. Pour une fois, on est content que le bébé pleure, d'accord. Mais là, c'est sans doute des pleurs qui remontent à 3 mois d'étouffement, si vous voulez. Hein. Donc il y a là ouf, le couvercle qui est sorti. Après 3 mois de vie lunaire, il exprime sa détresse à travers des cris perçants. De tout son soûl, il verse des larmes d'abandon, de colère, d'incompréhension, de faim, de mal-être, de tristesse, de terreur, de soulagement aussi, d'entendre enfin des mains, d'entendre enfin des voix humaines et de sentir des mains qui le prennent. De se sentir regardé de nouveau avec bienveillance. Ses pleurs emplissent non seulement les oreilles de la fille de Pharaon et de ses accompagnatrices, mais également celles du lecteur du 21e siècle que nous sommes. Il se fraye un chemin jusqu'à notre mémoire profonde et nous redonne accès à nos propres peurs et à notre propre pleur, parfois enfuis, vigoureusement refoulés et étouffés. Le futur Moïse reçoit donc l'hospitalité, commence à recevoir l'hospitalité dans les entrailles de miséricorde de la fille de Pharaon. Il est accueilli par une parole et elle dit : c'est un enfant hébreu. 2:6. Il est reconnu dans son humanité, selon sa race et selon son sexe. En grande opposition avec les paroles terribles de Pharaon, ce sont des paroles de vie. Non, proclame la princesse, il ne s'agit pas d'une menace pour la sécurité nationale. Ce n'est qu'un petit garçon hébreu qui pleure. Deux logiques ici s'affrontent. Celle incarnée par Pharaon, qui est celle d'un universel abstrait, qui a perdu contact avec la réalité, qui gère des chiffres, des nombres, et de la population comme la démographie, comme un troupeau d'animaux. Et la logique de sa propre fille, qui est une logique d'un universel concret, attentif au singulier. C'est un petit garçon qui pleure. Et on voit ces deux logiques qui s'affrontent. Enfin, il faut être prudent dans les. Mais ces deux logiques s'affrontent encore aujourd'hui, hein, et s'affronteront jusqu'à la fin des temps. Elles génèrent deux voir et deux dire opposés. Pharaon voit autre chose et dit autre chose. Sa fille dit, voit quelque chose et dit autre chose. Soudain apparaît la sœur du bébé. Donc un peu comme un lapin hors de sa poche, que le narrateur, il est malicieux le narrateur, il joue avec nous, hein. Il faut sentir ça dans le texte. Hein. C'est, comme je le disais pour les autres textes, ce sont des textes qui ont été racontés, re-racontés, re-racontés de façon orale, donc ce sont des textes qui sont d'une finesse vraiment extraordinaire. Avec audace, cette fille d'esclave adresse la parole à la fille même de Pharaon. Est-ce que j'irai, j'appellerai pour toi une femme qui allait parmi celles des Hébreux et allaitera pour toi l'enfant ? La fille de Pharaon lui répondit : va. Et donc, elle va chercher sa mère. Alors, dans ces versets, hein, il y a le mot sœur, femme qui allait, jeune femme, mère, fille de Pharaon, femme. Le texte se plaît à embrouiller les liens de parenté. Grâce à l'habile stratagème de la sœur, la situation dramatique trouve une issue acceptable. Mais à quel prix ? La maman de l'enfant est rétrogradée au rang de nourrice à laquelle on octroie un salaire. Imaginez, vous avez un enfant que vous aimez, etc. Vous ne pouvez pas dire que c'est le vôtre, et puis on vous paye pour le nourrir. Il y a quelque chose qui est... Je ne suis pas contre les allocations de personnes qui restent au foyer pour s'occuper de leur enfant. Je suis prudent mais, en disant le mot personne. Mais fondamentalement, il y a quelque chose qui vous voyez, non, hein, c'est pas une mercenaire, c'est pas une femme mercenaire, c'est sa mère. Hein. Cruelle dépossession. Dans une intention louable remplie de non-dits, sa propre fille et celle de Pharaon s'allient sans le savoir pour dépouiller cette femme de sa maternité. Elle perd son statut de mère au profit de statut d'employé. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, hein, mais enfin, vous voyez. Hein, Alors, Donc, il est mis en nourrice. J'avance. Le récit ne s'attarde guère sur la période d'allaitement. L'enfant grandit sans nom. Sans doute qu'il a reçu des noms affectueux. Boutchou, chéri. Oui, des petits noms. Mais pas un nom, si vous voulez, qui aide à l'identité, qui fixe une identité. D'ailleurs, le père dont c'est la vocation traditionnelle n'est pas mentionné. Où est-il? Où sont les hommes? Papa ou t'es, d'accord? Bon. Est-ce qu'il va évoluer à l'intérieur d'un lourd secret familial? On ne va pas trop révéler qui il est, etc. Pour sa sécurité, et surtout pour la sécurité aussi de la famille. Oui. Ça doit être... On dit souvent que les premières années de l'existence sont assez décisives. Ça doit être assez angoissant pour tout le monde. Il y a de la joie, etc. C'est d'abord de la joie, mais oui, il y a... L'enfant grandit et la nourrice l'amena à la fille de Pharaon, donc sa maman. Il fut à elle un fils. Il fut à elle un fils. Vous imaginez, la mère, qui apporte son fils à Pharaon, sans doute qu'elle doit être contente en partie, mais en même temps, il fut à elle un fils, donc à la princesse. Elle appela son nom Moshe, Moïse. Et elle dit, c'est que hors de l'eau, je l'ai pêché, je l'ai tiré. Selon les historiens, cet épisode se déroule vraisemblablement quand l'enfant avait entre 3 et 4 ans, parce que le sevrage se faisait autour de cet âge-là. Le petit garçon donc reçoit son nom grâce à une étrangère, plus précisément grâce à la fille de son persécuteur. En langue, alors qu'est-ce que signifie Moïse? C'est un nom assez intéressant. Moshe, en langue égyptienne, signifie « fils de ». Moshe, fils de. Mais fils de qui? Fils de. Ça veut déjà dire quelque chose, hein? En général, il est accolé à d'autres noms, comme par exemple Tutmosis, fils du dieu Thoth, ou Ramsès. Tiens, il porte le même nom que Ramsès, oui, dont les villes entrepôts, on a repéré plus ou moins que c'était, et toute l'interprétation du prince d'Égypte se base là-dessus, vraisemblablement c'était à l'époque de Ramsès II. Ramsès, fils du dieu Thoth, fils du dieu Ra. Donc, fils de qui? Né de qui? De quel dieu? De quels parents? De quel peuple? Du dieu fleuve dont la femme égyptienne l'a tiré? Premier point, première énigme. En fait, il y a trois énigmes qui portent dans son nom et une faute d'orthographe. Par ailleurs, Moshe renvoie également au participe présent du verbe tirer, le tyran, pas avec un Y, hein, celui qui tire. Le sauvant, si vous voulez. Il ne peut donc pas se traduire par un participe passé comme le fait l'égyptienne. Je vais l'appeler Moshe parce que je l'ai tiré de l'eau. Hein, il est tiré. Non, Moshe signifie le tyran, hein, celui qui tire lui-même. Entre parenthèses, c'est déjà une annonce programmatique de toute sa mission future. Lui qui va sauver son peuple des eaux, enfin, en traversant la mer Rouge. Est-ce que cette dernière connaissait... Donc Moshe en égyptien, c'est fils de, et Moshe en hébreu, ça signifie tyran, hein, celui qui tire. D'accord, c'est en hébreu que ça signifie ça. Ok? Est-ce que la fille de Pharaon n'a pas fait là une... Est-ce qu'elle connaissait bien l'hébreu? C'est pas sûr qu'elle connaissait l'hébreu. Et si elle le connaissait, peut-être qu'elle a fait une faute de grammaire, d'accord? Imaginez que vos parents fassent une faute de grammaire en mettant, à Olivier, ils mettent 3 L, d'accord ? Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors, il y a plus encore. Dans Moshe, vous avez le mot nom en hébreu, Shem.
Donc, vous voyez, vous avez le mot Shem, qui signifie nom en hébreu, mais qui est inversé. Porte dans son nom, c'est comme s'il s'appelait, enfin non, en français ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas, nom, ça donne nom inversé, d'accord ? Encore que non, parce que nom, c'est un M à la fin. Donc,
ce sont les psychanalystes qui disent que le père doit donner le nom et le nom. Mais donc c'est comme s'il s'appelait Mon, d'accord ? Donc, c'est une énigme. Donc, Moïse porte dans son nom une énigme. N'oublions pas que nous sommes dans le livre de l'Exode ou le livre des noms. Tout ça se tient. Alors, j'ai une question que je me suis posée avec une psychologue dont j'ai oublié le nom, peu importe, vous le trouverez dans mes livres, qui se pose la question, mais où sont les hommes dans cette histoire? Franchement, où sont les hommes? Face au délire pharaonique de toute puissance, seules des femmes s'opposent et opposent une réelle résistance durant ces deux premiers chapitres. Les accoucheuses, dont on se souvient encore aujourd'hui, au XXIe siècle, des noms. Shifra et Pua. Alors qu'on ne sait même pas le nom de Pharaon, qui s'est bâti des villes entrepôts. Et c'est paradoxalement à travers ces villes entrepôts que les historiens pensent bien qu'il s'agit de Ramsès II. Ça va ? Deux sages-femmes dont on retiendra jusqu'à la fin des temps le prénom. On est dans le livre des noms, de la mémoire. Donc il y a une alliance entre des femmes de condition, de religion et d'âge extrêmement différents pour sauver Moïse, sauver le nourrisson. C'est quelque chose de très bouleversant, je trouve. Vous avez des Égyptiens, princesse et simple servante. Vous avez la mère de l'enfant, vous avez la sœur, vous avez les accoucheuses. Donc, si vous voulez, il y a une alliance non dite de femmes pour la vie. Mais pas la vie avec un V d'abstraction, mais pour la vie de ce petit garçon. Et donc, Moïse, il y a peut-être des juristes parmi vous, certainement, qui est le grand législateur, va faire l'expérience à l'aube même de son existence, dans les racines même de son être, que le droit positif n'est pas absolu, qu'il y a des lois plus profondes qui sont des lois de la vie. Et ici, nous sommes dans une contradiction flagrante entre les lois positives édictées par Pharaon, les décrets, etc., et ce qu'on appellera plus tard les lois naturelles. Et il va l'expérimenter, non pas dans une théorie, il va l'expérimenter à l'intérieur même de son expérience la plus primordiale. Non, toute loi positive n'est pas nécessairement juste. Et c'est une alliance de femmes, au-delà même, ou bien en deçà même de leur différence de caste, le mot caste n'est pas juste, mais enfin de milieu social, d'âge, de religion, de culture, c'est cette alliance de femmes qui en est témoin au prix de leur vie. Hein. Au prix de leur vie. Quelque chose de fort hein, quand on y réfléchit. Certainement que cette alliance de femmes n'est pas exempte de rivalité. Je vous passe les détails, mais on sent qu'il y a un petit conflit quand même autour de qui va garder Moïse. Hein. Dans la fraîcheur de son existence, Moïse a donc été enveloppé par la Providence et par une communion de femmes. Cela signifie pas que son être profond n'ait pas été blessé. Le mal fait mal. Comme je l'ai déjà dit, le mal fait mal. Comment pourrait-il ressortir indemne de ses 3 premiers mois lunaires, de sa brutale séparation d'avec sa mère, de sa reprise par cette dernière, donc par la comme nourrice, après le traumatisme de la grande rivière, de sa croissance anonyme au sens étymologique du terme, sa croissance anonyme parmi les siens pendant les 3 premiers mois, de sa nouvelle séparation familiale quelques années plus tard, et de l'imposition d'un nom égyptien ou hébreu. Oui, quand on se dit, mon Dieu, les enfants de nos familles, parfois, ils souffrent beaucoup, et on a raison de le dire, mais vous voyez, c'est vrai, mais Moïse montre que, inscrit en quelque sorte dans son identité, dans sa chair, le destin de tous les petits humains qui viennent au monde avec plus ou moins de drames, de plus ou moins de douleurs. Alors il faudrait demander, je passe, j'ai un peu travaillé ça, mais au niveau psychologique, quelles traces ça peut laisser, hein, avec le syndrome de l'abandon, même si cet abandon est objectivement un acte de salut, hein, etc. Qu'est-ce que ça laisse comme trace dans le cœur, le psychisme, l'esprit du petit bébé, le cerveau en construction. Mais, surtout, n'ayons pas le regard réducteur. Moïse a été quand même profondément béni au début de sa vie. Béni par ses parents qui bravent les lois de Pharaon, par sa mère, par cette femme égyptienne. Hein, c'est d'ailleurs... Les psychanalystes s'amusent, hein, avec le fait que la fille de Pharaon, pourquoi est-ce qu'elle va adopter un petit Égyptien, qu'est-ce qu'elle veut dire à son père, etc. Mais n'entrons pas là-dedans, hein, il y a moyen de réfléchir à cela. Alors, je passe au point C. Donc, le premier point, c'était le contexte généalogique et social, que j'ai très vite passé. Le point B, c'était le long de la grande rivière. C'était là le lieu où nous avons habité pendant un moment. Maintenant, passons à l'ombre du palais royal. Le point C, un jeune homme ambivalent. Après son sevrage, Moïse est brutalement transplanté de la petite maison, la maisonnette, ou je sais pas, de la cabane, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de ses parents, à un somptueux palais. Vous imaginez quand même le changement, hein, le gap de milieu. Hein, et là, il grandit, et en fait, à l'époque, le palais de Pharaon, pour avoir un tel empire, il fallait avoir une administration extrêmement puissante. Et donc, aussi avoir... c'était une civilisation extrêmement brillante, hein, les Égyptiens. On va visiter d'ailleurs encore aujourd'hui, et on s'émerveille toujours davantage de la finesse de cette civilisation. Et donc, il reçoit la meilleure éducation du monde à l'époque. Il fait les grandes écoles. En France, on dirait il fait l'X. Encore faudrait... Et voilà, il est formé dans les langues étrangères, dans les rites religieux, dans l'art de la guerre, dans la sagesse, dans plein de choses. Ce qui fait dire aux Actes, c'est pas notre texte, mais c'est les Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 22, « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. » Remarquons qu'il ne se marie pas. Il ne contracte aucune alliance matrimoniale. En est-il capable à ce moment-là? Parce qu'en lui, il est-ce qu'il est prêt pour cela? Ainsi, Moïse est magnifiquement formé à l'intérieur de la culture égyptienne. Dans quelle mesure a-t-il accès aussi à la culture des fils d'Israël? Dans quelle mesure connaît-il ou non l'origine de son identité? Dans l'interprétation qu'en fait le prince d'Égypte, non. Voilà, c'est une interprétation. On peut penser peut-être que oui, peut-être que non. Mais on peut tenir les deux à la fois. Peut-être qu'il le savait sans le savoir. Mais... Quelle représentation du divin, du cosmos, de la nature, de l'humain et de la société développe-t-il en lui? C'est pas neutre d'aller dans telle ou telle école. C'est un registre symbolique aussi. Quelle conception de l'univers il a? Conception gender, conception... il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs représentations du religieux. Je passe sur ce point-là, mais c'est assez intéressant, notamment pour aujourd'hui, dans une ville multiculturelle comme Bruxelles, de se dire, mais tiens, avec les grands débats actuels autour du cours de religion et autres, comment est-ce qu'on développe l'imaginaire et les références symboliques des personnes qui appartiennent à différentes cultures? Ce sont des questions que Moïse nous pose. D'un point de vue généalogique, le récit ne dit nulle part que Moïse connaisse ses ascendants. Il n'est pas sûr qu'il sache le nom de son père, le sang, qui sera prononcé 4 chapitres plus loin par le narrateur, Amram, Exode 6-18. Donc, il se peut qu'il ait hérité d'une mémoire défaillante de Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, et qu'il se voit seulement comme un prince dynastique. Cependant, son nom égyptien le renvoie continuellement à l'énigme de son origine, tellement centrale dans la perception et le travail de son identité. Comme dit Philippe Van Merbeek, un psychiatre bien connu en Belgique, spécialiste des adolescents, la période de l'adolescence en particulier tourne autour de la question humaine suivante, d'où je viens. Donc, je passe un peu ce chapitre, mais dans son inconscient, il doit avoir deux images paternelles qui se combattent l'une l'autre. L'image paternelle d'un père évanescent, s'il le connaît, et l'image paternelle d'un père tout-puissant et dangereux. Pharaon qui donne, c'est l'image paternelle à la cour. Par rapport à Pharaon, il doit avoir je vois que le temps passe vite, donc il faut que j'aille un peu plus vite, mais il doit avoir un rapport ambivalent. Pharaon, c'est celui grâce auquel il a accès à cette culture extraordinaire. Il peut manger, il a des amis, il joue peut-être avec son fils, etc. Enfin bref, il y a là... Donc à la fois c'est le père aimé et admiré, et à la fois c'est le père craint, et le père peut-être même haï, vous voyez. Et donc il y a deux pères qui se combattent peut-être par rapport à la figure de Pharaon. J'aime bien, c'est une des scènes les plus grandioses de la bande dessinée que je connaisse, c'est lorsque le chevalier de Haddock livre dans le trésor de Rackham le Rouge, livre un combat mortel avec Rackham le Rouge. Rackham le Rouge et le chevalier de Haddock sont en fait les deux faces du père haï et du père aimé. D'accord ? Avant l'explosion du bateau. Le moyen de travailler. Alors, à un certain moment, certains disent quand il a 40 ans, mais le texte ne le précise pas, il y eut en ces jours-là que Moïse avait grandi, il sortit vers ses frères. Le mot sortir est intéressant. Donc en 2, 11a. sortir, c'est le mot de l'Exode. Hein. Et là, il y a, vous connaissez cette scène, encore une fois, c'est vraiment bien développé dans le livre, hein, où il y a, je vais essayer de le résumer, où il y a cette fameuse meurtre de l'Égyptien, où il prend parti pour l'opprimer. On pourrait relire toute l'histoire de Moïse avec une sorte de justice. C'est très intéressant aussi de relire toute l'histoire de Moïse quelque chose. En travaillant le texte, c'est quelque chose qui m'est apparu de plus en plus. Son identité s'est construite autour de la soif de la justice. C'est pour ça que pour les enfants, la question de la justice est tout à fait primordiale. De bien soigner ce sens de la justice, du juste et du pas juste. Un enfant sait hurler quand c'est pas juste, hein. Enfin, quand il pense que c'est pas juste. Hein, non. Parce que ça l'atteint profondément sa racine. Mais toute l'identité, à mon avis, il faudrait mieux le fonder dans le texte, mais Moïse s'est construit autour d'une soif de justice. Qui ici prend un peu la tournure d'une soif de vengeance aussi. Voyez. Alors, il tue cet Égyptien. Alors, symboliquement, on peut réfléchir à un niveau plus psychanalytique, entre guillemets. Mais en fait, en Moïse, il y a à la fois l'Égyptien et à la fois l'Hébreu opprimé, les deux. D'accord ? Et donc, se joue à l'extérieur de lui un combat intérieur extrêmement violent dont il n'en est peut-être pas complètement conscient. Et donc, il prend peut-être conscience à l'occasion de ce. Vous me suivez ? Et donc, lorsque il tue l'Égyptien, en fait, il tue l'Égyptien en lui. Et remarquez, il le tue sans lui adresser aucune parole. Il le frappe, pour être précis, et ça entraîne la mort. Sans aucune. Le lendemain, quand il va ressortir et qu'il y a à nouveau une bagarre, entre deux hommes, cette fois-ci deux Hébreux qui se bagarrent, tiens, le mal n'est pas uniquement égyptien-hébreu, mais hébreu-hébreu. Tiens, il y a aussi. Là, il va évoluer en commençant à parler. Et là, il rend une sorte de justice, on pourrait même presque dire de vengeance spontanée, sans parole. Il y avait moyen de développer une réflexion sur l'adolescence magnifique à partir de là. Et donc, cette chose est sue, et ça a comme conséquence que Pharaon se met à le poursuivre, et il doit vite s'enfuir. D'accord ? Je passe au point D. Après nous être promenés le long de ce fleuve à la fois parasidiaque et monstrueux, après avoir habité un peu la maison de Torchi du petit Moïse et d'avoir été abrité à l'ombre du palais, nous voici dans le désert et nous voici à Madian. Il conduit ses pas dans une terre réputée pour l'exercice de sa justice. Ah tiens, moi, si j'étais en colère, j'irais plutôt vers une tribu guerrière, surtout que Moïse était un guerrier. Il connaissait l'art de la guerre. En effet, Madian ou Midian signifie littéralement « qui juge ». Et Reuel, le grand prêtre de l'endroit, accorde une grande importance à la juste relation au prochain par laquelle l'homme est uni à Dieu. Même dans son nom. Hein, il est appelé aussi Jéthro, celui qui donne de croître. Et plus tard, Horab, le convivial. Donc c'est quand même un homme dont les trois noms qui sont donnés semblent bourrés de qualité. Hein. Donc, Reuel signifie constituez Dieu en prochain, ou bien reliez-vous à Dieu par la rencontre du prochain, c'est ça que ça veut dire Reuel. Jéthro, celui qui donne de croître, alors que Pharaon étouffait, et Hobab, le convivial. Et c'est là qu'il va chercher refuge. Vous connaissez l'histoire Moïse qui arrive là, épuisé, et puis il voit des bergers qui embêtent les filles de cet homme, et de nouveau, tadadadam, désir de justice qui jaillit en lui et il se précipite pour les mettre en déroute. Un contre trois, ou un contre plusieurs, ça montre quand même que c'était un homme qui savait se battre. Et Jéthro, quand il voit ses filles rentrer plus tôt, tiens, pourquoi est-ce que vous rentrez plus tôt? Ah ben voilà, papa, il y a un homme qui nous a défendus contre les bergers et qui nous a aidés à abreuver nos troupeaux. Alors, Jéthro, j'essaie de retrouver le texte. Faire boire le petit bétail, vous vous souvenez aussi, ça a des réminiscences de Joseph, hein? J'essaie de retrouver... voilà. Alors, 2.20, c'est une phrase magnifique, 2.20. Où est-il? Donc c'est Reuel qui parle. Pourquoi est-ce que vous avez abandonné l'homme? Appelez-le et il mangera le pain. Pour la seconde fois de son existence, Moïse est accueilli dans l'intimité d'une famille étrangère. Reuel, le père de famille, le reconnaît dans son identité d'homme et d'homme abandonné. Où est-il? Où est-il? Quand on voit quelqu'un qui est un peu étranger à lui-même, on dit « Oh, où es-tu ?» Hein? Ouais. Où est-il? Dieu qui est après en Genèse 3, qui cherche Adam, « Où es-tu ?» Hein? Où est-il? Grâce à ce père attentionné, l'homme égyptien pénètre à l'intérieur d'un univers très humain, comme en témoigne le triple retour du mot « homme » en 2.19, 2.20 et 2.21. Voilà, il nous reste 4 minutes, mais j'ai préféré prendre mon temps pour développer l'histoire de Moïse. Je vais arriver tout de suite à la conclusion, alors que je passe les choses essentielles. Je ne veux pas vous retarder. Je passe beaucoup de choses essentielles. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci, c'est que lorsqu'il est en terre de Madian, donc Moïse, de nouveau, est accueilli donc, par cette famille. Il se marie, il a des enfants. On se représente souvent Moïse, dans notre tradition judéo-chrétienne, comme célibataire, d'accord? Il était marié, même s'il a renvoyé sa femme un peu plus tard, mais ça c'est une autre histoire, d'accord? Il est marié, il avait des enfants. Et puis il devient berger. Et en fait, son nom, il le garde comme une énigme, sans doute douloureuse, mais il y a une sorte de sérénité qui vient. Et il devient capable... Donc c'est à ce moment-là qu'il devient capable de se marier, de nouer une alliance, parce que de nouer une alliance en lui-même. Et voilà, il se dit, ben voilà, je vais sans doute terminer ma vie là, dans cette terre étrangère. C'était sans compter l'intervention de Dieu, qui jusqu'à présent semblait extrêmement absent. Où est Dieu pendant les génocides? Où est Dieu pendant... etc. Il semblait fort et absent. Et ça, c'est le point E, par-delà le désert, un homme d'alliance. Donc, Dieu va appeler, c'est le fameux épisode du buisson ardent, va appeler Moïse du sein de ce buisson et va lui donner accès à sa mémoire profonde et à son identité. Voilà un homme qui est à cheval sur 3 cultures, sur 3 religions, sur 3 systèmes de représentation cosmique il s'est résigné, si vous voulez, à conduire le troupeau de son beau-père Jéthro, ce n'est pas son troupeau à lui. Ce grand homme, craint et admiré à la cour de Pharaon, il s'occupe du bétail, le berger annonce le nouveau berger qu'il va devenir bientôt. Hein. Le bâton est très symbolique aussi de ce point de vue-là et joue un grand rôle dans le récit. Voilà ce grand homme qui est résigné et voilà qui voit peut-être pas très clair, mais il a trouvé une certaine paix, et il est capable d'alliance, et voilà, tranquille, Hein, on a bien, voilà, il a bien mené sa barque de son existence, et voilà Dieu qui arrive. Et Dieu lui redonne peu à peu mémoire, accès à sa mémoire, et donc va lui dévoiler peu à peu son identité. Il va le lui dévoiler en lui révélant son propre nom, le nom de Dieu. Nous sommes dans le livre des noms. Fondamentalement, celui qui donne accès à notre nom, c'est Dieu. Au-delà, ou à l'intérieur même du lien, je préfère dire à l'intérieur du lien, entre trois cultures et trois religions qui ne sont pas toutes sur le même plan, évidemment. Nous sommes dans la perspective de l'élection ici. Mais voilà, c'est ce rapport au buisson ardent. Et ainsi, excusez-moi d'aller aussi vite, mais c'est intéressant de voir, enfin, il a fallu du temps pour tout ça. Voici que Moïse, comme Abraham, déjà d'un certain âge, qui part pour retrouver son peuple. Au terme de ces chapitres du livre de la Genèse, de l'Exode, Moïse apparaît plus que jamais comme un nomade de l'identité, mais pas de la même manière qu'au début du livre. Son identité, il la doit d'abord à Dieu, mais également à tant de personnes qu'il a rencontrées au cours de son existence. Je voudrais terminer par là, enfin, il y aurait sans quelque chose encore à dire, excusez-moi de redire pour ça. Mais la figure de paternel, par exemple, comment est-ce qu'il a construit à l'intérieur, nous avons tous, chacun d'entre nous, la figure d'un père. Notre père de sang a été et est certainement une figure majeure, mais nous avons eu aussi d'autres références paternelles pour construire notre identité. Donc Moïse, pour construire son identité, a eu référence à plusieurs figures paternelles, plusieurs figures maternelles, des figures de sœurs, des figures, etc. Un jeune homme me racontait combien il avait été effondré à l'enterrement de son chef de troupe qu'il n'avait plus revu depuis 15 ans. Et ne comprenait pas, lui, qui ça lui laissait une froide d'aller d'un homme. Enfin, dire ça. C'était émouvant, bien sûr, mais il ne comprenait pas pourquoi il était tellement effondré. Enfin, le jeune homme avait 35 ans, plus ou moins. Il était vraiment complètement effondré. Et puis, en réfléchissant, il s'est dit, mais tiens, ce chef de troupe a été pour moi, sans savoir, je me suis construit dans ma masculinité en référence à cet homme-là, et je ne le savais pas. Oui. Moïse aussi s'est construit en référence à plusieurs figures paternelles, même si le père de sang a une place irremplaçable. Il construit donc une identité d'alliance, ça c'est le cœur de l'identité, finalement, c'est l'alliance. Au début, il y a peu de place pour l'alliance, et puis peu à peu, l'alliance prend de l'espace, jusqu'au moment où il va devenir, son nom va devenir un nom dans lequel, va devenir un nom à l'intérieur duquel le peuple va pouvoir venir se réfugier. Il va devenir son nom une tente hospitalière pour des centaines de milliers de personnes, et bien davantage si on compte, nous, les lecteurs que nous sommes. Il va devenir un nom sanctuaire, sans commune mesure, avec celui de Pharaon. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci.